Je lutte avec cette prédication depuis une semaine et je vois que je continue de lutter ce matin. Elle ne veut pas venir. Je lutte parce que c'est une prédication pas facile. Je risque peut-être d'être mal compris. Alors, j'aimerais vraiment rappeler ce qu'est une prédication, hein. C'est pas une leçon de morale ou quelqu'un qui a tout compris et qui explique aux autres. C'est l'idée de se mettre ensemble devant la parole de Dieu et de regardez si c'est bien ce que dit la parole. C'est pas parce que la personne qui est devant parle qu'elle aurait intégré tout ce qu'elle va dire. L'idée est de ce que nous puissions intégrer ensemble ce que la parole veut nous dire, ce que la Bible nous dit. Quand je dis la parole de Dieu, je pense bien sûr à la Bible. Alors j'aimerais vraiment que ce matin vous puissiez effacer mon visage des paroles qui vont être dites et que vous vous posiez simplement ces deux questions. Est-ce bien ce que Dieu dit? Et si oui, que vais-je en faire? Alors vous vous rappelez, vous qui venez dans notre église, qui n'êtes pas visiteur, que nous avons entamé une série depuis le début de l'automne qui s'appelle « Tenir dans la foi malgré tout ». On avait déjà suivi deux passages. Le premier était dans le livre de Daniel. Et nous avions étudié cette idée « Tenons dans la foi malgré les contextes défavorables ». Et le second passage, c'était il y a deux semaines. Nous avions décelé qu'un des obstacles dans notre foi, pour tenir ferme dans la foi, pouvait être les idoles de nos cœurs, c'est-à-dire tout ce que nous pouvons mettre à la place de Dieu pour faire office de Dieu. Et ce matin, l'approche est peut-être un peu plus surprenante. On ne s'attendrait pas à aborder un tel sujet quand on parle d'obstacles à la foi. Enfin, en tout cas, moi, je ne m'attendais pas à aborder un tel sujet quand j'avais imaginé cette série. Mais c'est vrai que ce message est devenu de plus en plus évident au fil de mes lectures et différentes expériences. Et j'aimerais vous encourager dans un premier temps à imaginer. Imaginez l'espace d'un instant que le désir le plus profond de votre cœur, le rêve auquel vous tenez le plus, soit réalisé. Ça peut faire écho à beaucoup de choses, hein, on en a entendu ce matin. C'est pour ça que je dis, attention, je ne peux pas être mal compris. Imaginez que cela soit réalisé. C'est gratuit ce matin, hein, vous pouvez y aller. Vous avez imaginé? Vous avez pris le temps de réfléchir? Maintenant, j'ai une question. Est-ce que vous croyez vraiment que tout va être plus facile dans votre vie? Parce que ce rêve-là serait réalisé. Parce que ce désir profond serait enfin comblé. Je veux dire, est-ce que votre marche avec Dieu s'en trouverait simplifiée? Oui, il y a des choses, on aspire à ce qu'elles changent. Mais est-ce qu'on sortirait pour autant du combat de la foi? L'histoire d'Abraham nous apprend que pas forcément. Et avant de lire ensemble le chapitre 22 dans le livre de la Genèse, j'aimerais juste redire en quelques mots comment nous en sommes arrivés là. Dans la Bible, on fait la connaissance d'Abraham alors qu'il est âgé de 75 ans. Et Dieu s'adresse à Abraham au travers d'une promesse. On fait la connaissance d'Abraham alors qu'il est âgé de 75 ans. C'est là qu'il reçoit le premier appel de Dieu. Dieu demande à Abraham de quitter son pays en Mésopotamie pour aller à Canaan, pays que Dieu veut lui donner en héritage à lui et à ses descendants. Pour que Dieu donne ce pays en héritage à lui et à ses descendants, il fallait donc qu'Abraham ait des enfants. Ça paraît logique. Le problème, c'est qu'il semblerait que Sarah était stérile et qu'elle était avancée en âge, hein. Abraham avait 75 ans, sa femme, je crois, 10 de moins. Comment Dieu allait-il s'y prendre pour accomplir sa promesse? Très certainement, cette question est au cœur, hein, des préoccupations d'Abraham et de Sarah. Il y a des couples, hein, qui ont été confrontés à ça, qui le sont encore, hein, dans cette assemblée. C'est épuisant d'attendre. Quand on sait que Dieu, enfin on attend quelque chose de Dieu, et on sait qu'on ne peut pas avoir d'enfant. Abraham Et Sarah sont dans cette situation d'attendre des années, de savoir comment Dieu va répondre à cette promesse et d'être confrontée à cette situation, ne pas pouvoir avoir des enfants. Alors il décide de prendre les choses en main. Après tout, Dieu n'avait pas dit comment il allait faire. Et au bout de 10 ans, qu'ils sont en pays de Canaan, Sarah suggère à son mari, Abraham, d'aller avec sa servante, Agar, et d'avoir un enfant. C'était une façon habituelle dans l'époque de prendre les servantes des épouses et d'avoir des enfants aussi avec elles pour agrandir la descendance. Et c'est ce qu'Abraham fait. Si Dieu n'avait pas donné d'enfant à Sarah, l'idée d'Abraham et de Sarah, c'était que peut-être eux-mêmes devaient accomplir cette promesse. Et donc, c'est comme ça que naît Ismaël. Et la Bible ne nous dit pas si finalement Abraham et Sarah ont mal fait à ce moment-là. Elle nous dit juste que Ismaël arrive et on voit que ça cause un certain nombre de tensions, de conflits dans la famille, notamment entre Sarah et sa servante. Seulement, il se passe du temps. Abraham atteint l'âge de 99 ans et Dieu lui apparaît une nouvelle fois pour renouveler sa promesse d'une descendance nombreuse. Mais cette fois-ci, il précise, une descendance née de Sarah, sa femme. Abraham est très surpris à cette annonce. On est 13 ans plus tard. Ismaël a 13 ans quand Dieu revient voir Abraham pour lui dire ça. Il semble que Abraham, il va essayer d'aider Dieu un petit peu à dire « Ne promets pas plus que tu ne peux faire. » Écoutez ce qu'il lui dit. Abraham tomba sur sa face et il rit et dit en son cœur « Naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans ? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle ? » Et puis Abraham glisse subtilement que finalement la promesse a déjà été accomplie. « Oh, qu'Ismaël vive devant ta face !» s'écrie Abraham en s'adressant à Dieu. Alors, Dieu va mettre les points sur les « i » d'Abraham. Il n'y a pas de « i » dans Abraham. Non, c'est Sarah, ta femme, qui t'enfantera un fils. Le genre de promesse bien difficile à croire. Et encore une fois, je veux répéter toute mon affection pour ceux qui vivent cette situation, d'attendre un enfant et qui, pour des raisons biologiques, ne le peuvent peut-être pas. Mais Abraham, lui, quelque part, il avait fait son deuil de cette situation, depuis 13 ans. Il avait pensé accomplir la promesse avec sa femme par lui-même. Et depuis 13 ans, il se disait que donner naissance à Ismaël, c'est ce que Dieu avait prévu pour eux. Et voilà que ce vieillard âgé de 100 ans, maintenant, devait reconsidérer tout ce qu'il avait estimé être la volonté de Dieu dans sa vie. Il avait pensé accomplir la volonté de Dieu, et finalement, Dieu se révèle à nouveau à lui en disant « Non, c'est pas comme ça que j'avais prévu les choses. » À 100 ans, Abraham doit tout reconsidérer. La promesse qu'il avait reçue de Dieu, l'attente qui s'était déjà passée, la naissance d'Ismaël. Ça devait sérieusement bouillir dans sa tête, vous croyez pas? On n'aimerait pas vivre ça à 100 ans, on se dirait qu'on a mérité une vieillesse tranquille. Mais cette fois, la promesse ne tarde plus à se réaliser. Un an plus tard, Sarah devient enceinte et enfante Isaac dans un élan de joie et d'euphorie comme vous pouvez l'imaginer. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance de son fils Isaac. C'est alors que Sarah dit « Dieu a fait de moi la risée des gens. Quiconque l'apprendra rira à mon sujet. » Elle ajouta « Qui aurait dit à Abraham que sa femme, que Sarah, allaiterait des enfants ?» « Cependant, je lui ai donné un fils dans ma vieillesse. » Incroyable marche avec Dieu que celle d'Abraham. Tour à tour dans l'attente, puis dans la frustration, dans la compensation, puis dans l'étonnement, Abraham avait tout quitté pour vivre ce moment, sa patrie, sa famille, sa culture. Et alors qu'il n'avait plus aucun espoir que il se passe quelque chose d'aussi merveilleux. Sarah enfante Isaac. Pas sûr qu'il y ait eu beaucoup d'hommes sur cette terre qui aient eu autant de joie qu'Abraham en entendant cette nouvelle, un fils t'est né. La manière dont cette série d'épreuves, cette attente interminable ont forgé, approfondi la foi d'Abraham, à mon avis, a peu d'égal. Mais alors qu'on pourrait se dire « tout est bien, qui finit bien », il n'en est pas tout à fait comme ça. Et c'est là où notre chapitre 22 dans le livre de la Genèse intervient. Alors je ne sais pas si Geneviève a réglé nos soucis et si vous allez pouvoir suivre la lecture. En tout cas, je vais lire dans ma Bible, Genèse 22. Et nous allons lire les versets 1 à 14. « Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit « Abraham !» Et il répondit « Me voici !» Dieu dit « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et va-t'en au pays de Morija. Là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit « Mon père !» Et il répondit « Me voici, mon fils. » Isaac reprit « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit « Abraham, Abraham !» Et il répondit « Me voici !» L'ange dit « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes, et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Yahvé-Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Passage difficile, hein? Pourquoi, Seigneur? Pourquoi une telle demande? La naissance d'Isaac était le rêve de toute la vie d'Abraham, hein? J'espère que vous l'avez entendu avant. Et une demande terrible lui est adressée. Prends ton fils. Alors ça vaut le coup de s'intéresser aux raisons de cette demande. Hein. C'est toujours plus facile de s'intéresser aux raisons de la demande de Dieu chez les autres que chez nous-mêmes. On a plus de recul. Alors on arrive un petit peu à le faire pour Abraham. La demande de Dieu d'ailleurs nous met un petit peu sur la piste. Prends donc ton fils, ton unique, celui que tu aimes. J'espère que vous avez noté l'insistance. On pourrait la reformuler ainsi. On va mettre de côté dans un premier temps l'aspect choquant. On va juste se concentrer sur la demande. Abraham, tu aimes ton fils, n'est-ce pas? Tu as attendu ce fils pendant des années. Tu n'avais plus d'espoir. Et finalement, ce fils t'est né. Alors forcément, Abraham, tu es spécialement attaché à ce fils, hein. Aussi, j'aimerais te poser une question, Abraham. Aimes-tu ton fils comme il le faudrait? Je veux dire, est-ce qu'il se pourrait peut-être que tu sois attaché à ton fils plus que tu ne l'es à moi. C'est Dieu qui parle, hein. Enfin, il pourrait parler comme ça. Et c'est une question légitime, hein, au regard du passé d'Abraham. En fait, si je comprends bien ce texte, il semble que maintenant que Isaac soit là, Abraham courait un grand danger. Abraham avait dû endurer de tels sacrifices dans sa vie, jusqu'à cette bénédiction incroyable de la naissance d'Isaac, qu'il courait désormais le risque de s'attacher à Isaac plus qu'à Dieu lui-même. Et ce qui est particulièrement déroutant, c'est que ce fils, c'est Dieu qui le lui a donné. C'est assez clair dans le passage, hein. Étrange chose que le cœur humain. J'avais mes professeurs à l'IBG qui aimait à répéter, en fait, c'est après nos plus grandes victoires dans la foi qu'on est le plus en danger. Parce qu'en fait, c'est alors que notre espérance peut changer de cap. Nous courons le risque de ne plus de à nouveau nous appuyer sur les trésors passagers de cette terre plutôt que de fixer sur les trésors éternels du ciel. Là où la teigne et la rouille ne détruisent point, comme le dit Matthieu au chapitre 6 de son évangile. Pourtant, cette période de la vie d'Abraham avait été bénie. Et c'est pour cela, en fait, que le risque était grand de mettre Isaac à la place de Dieu dans sa vie. Voilà sans doute la raison pour laquelle Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il ne faut pas comprendre que Dieu avait besoin pour lui-même de mettre Abraham à l'épreuve, hein. Dieu savait exactement ce qui était dans le cœur d'Abraham. Simplement, cette épreuve, elle était nécessaire pour Abraham lui-même, et aussi pour qu'il soit manifeste que la confiance d'Abraham en Dieu dépasse la réalisation de la promesse en Isaac. Voilà un petit peu pour les raisons de cette mise à l'épreuve. Maintenant, il n'en reste pas qu'il faut aborder l'aspect choquant de la mise à l'épreuve, hein. Abraham, prends ton fils et va l'offrir en holocauste sur l'une de ces montagnes que je te montrerai. Choquant. Choquant. Viens m'offrir ton fils en sacrifice, c'est choquant. Et ça doit le rester. On verra tout à l'heure mieux pourquoi. Pourtant, cette demande mérite quelques précisions. En fait, elle a posé de nombreux problèmes à travers les siècles, hein. Certains estiment, avec un tel passage dans la Bible, qu'il y a un argument massif contre la foi. La religion, c'est un danger. Regardez à quels actes insensés, extrêmes, elle peut mener. La preuve, vous présentez Abraham comme un exemple de foi, et lui, il répond à cette demande de prendre son fils et d'aller l'offrir en sacrifice. Extrémiste religieux, on dirait aujourd'hui, hein. La foi est-elle irrationnelle et absurde ? Question importante à poser. Et comme toujours, il y a une part de vrai dans ces accusations. Il y a eu de nombreuses fois où on a fait des choses horribles dans l'histoire de la chrétienté. Les croisades, la mise à mort de personnes qui ne pensaient pas comme les chrétiens, hein, des chrétiens, en tout cas des gens qui portaient le nom de chrétiens, j'aimerais mieux m'exprimer ainsi, ont mis à mort des gens qui ne croyaient pas comme eux. Écoutez ce qu'a dit Harry Truman, le président des États-Unis, au moment de l'envoi des deux bombes atomiques sur Nagasaki et Hiroshima. Nous remercions Dieu de nous avoir donné cette arme et nous prions pour qu'il nous guide dans son usage. Au nom de Dieu, on peut faire des choses terribles, hein. C'est pas pour rien d'ailleurs que c'est le troisième commandement. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Troisième commandement de la Bible, enfin, troisième commandement des 10 commandements. Alors là, le souci pour nous, c'est qu'on peut pas se dire, Abraham, il a mal interprété ce que Dieu lui a dit de faire. C'est vraiment le problème de notre passage. C'est écrit comme ça dans la Bible, et c'est Dieu qui parle. Va, prends ton fils et va l'offrir en sacrifice. Alors il faut faire 2 remarques pour mieux comprendre. Je vais pas enlever l'aspect choquant du passage, parce que je vous dis, il me semble qu'il faut qu'il reste. Et je reviendrai tout à l'heure là-dessus dans notre conclusion. Mais pourtant, il faut quand même déjà noter que, à part ce passage, dans tous les autres passages de la Bible, et il y en a quelques-uns, et il n'y a pas d'exception, La Bible condamne le sacrifice d'enfants. C'est une horreur et une abomination aux yeux de l'Éternel que le sacrifice d'enfants. Vous pouvez, si vous voulez vérifier, regarder dans Deutéronome 12, verset 30. Alors, est-ce qu'on a une contradiction, là? Pourquoi avec Abraham, il faudrait le faire? Et puis, après, Dieu s'est rendu compte que c'était pas bien, donc il a dit qu'on n'allait pas le faire? Parce que le passage d'Abraham a lieu avant, hein, tous ces autres passages. Alors, c'est la deuxième remarque. En fait, il faut comprendre qu'il y a un ancrage culturel dans ce que Dieu demande à Abraham. Je l'invente pas, hein, les commentateurs nous aident à comprendre ça. En fait, si Dieu demande de ne pas faire de sacrifice d'enfants dans le reste de la Bible, eh ben c'est parce que c'était une habitude chez les peuples de cette époque que d'offrir en sacrifice, pas en permanence, mais à certaines occasions, le premier-né de la famille. En fait, les cultures anciennes étaient beaucoup moins individualistes que la nôtre, et elles avaient un sentiment de culpabilité envers Dieu, enfin les divinités, puisque la plupart étaient polythéistes, beaucoup plus marqué que la nôtre. Chaque malheur, chaque désagrément, chaque phénomène anormal était interprété comme une malédiction divine, signe de la malédiction divine. Il fallait donc apaiser ces dieux. Et une des façons de faire, aussi horrible soit-il, c'était de sacrifier ce qui était le plus important dans la famille. Le premier-né. Parce que le premier-né était l'image de l'avenir de la famille. Donc c'était un sacrifice tel que les divinités, du coup, ne pouvaient être qu'apaisées après cela. Vous comprenez un peu la démarche de ces peuples? Alors on doit comprendre cela, hein, avant d'interpréter les instructions que Dieu donne. Parce que si quelqu'un venait me voir aujourd'hui en me disant « Nicolas, je crois que Dieu m'a dit d'offrir mon fils en sacrifice », on pourrait dire assez clairement « c'est pas Dieu qui a parlé ». Non, c'est pas Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Tout comme si Dieu avait dit si Abraham avait cru que Dieu lui avait dit « prends ton fils, tue-le dans ta tente ». Et ça n'aurait aucun sens. Tuer Isaac pour tuer Isaac n'aurait aucun sens. C'est parce qu'il lui demande de le prendre et d'aller l'offrir en sacrifice sur une montagne, comme on le faisait à l'époque en faveur des divinités, que la demande de Dieu a un sens compréhensible pour Abraham. En lui demandant de faire cette offrande, Dieu en appelle à cette question de dette que l'humanité a envers les divinités. Ce que nous comprenons dans la foi chrétienne comme la dette du péché. Abraham comprenait, en fait, quelque part, il avait une compréhension intellectuelle de ce que Dieu lui demandait. Cette demande n'est donc ni irrationnelle, ni absurde. Ce n'est pas une foi aveugle que Dieu demande à Abraham. Mais si le geste prend un sens particulier dans son contexte, il n'en reste pas moins terrible à faire, hein. Surtout quand on a attendu un fils pendant 100 ans. Alors on ne sait pas combien de temps s'est déroulé entre la demande de Dieu et la mise en route d'Abraham. Et là encore, ça a dû cogiter là-dedans, hein. Toujours est-il qu'Abraham se décide à se mettre en route. Il prend le bois pour l'Holocauste. Il emmène deux serviteurs pour l'assister, pour les 3 jours de marche qui les attendaient, et bien sûr, il emmène son fils Isaac. Que penser dans ces cas-là? Qu'on a cru en un rêve, et que la réalité est bien plus terrible que notre rêve? Et puis il y a aussi le regard des autres. Suspicieux, Abraham, tu dis que tu vas offrir un sacrifice à Dieu, mais il est où ton sacrifice? Qu'est-ce que tu vas offrir en sacrifice à Dieu? Il y avait largement de quoi douter, hein, et de quoi cogiter sur le chemin. Et pourtant, Abraham tint ferme dans sa foi. Écoutez ce qu'il dit aux serviteurs. « Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. » Puis à son fils, à la demande du fils qui lui dit « Mais où est le... sacrifice, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Et ils marchèrent tous les deux ensemble. Alors, il est peu probable que Abraham avait la moindre idée de comment Dieu allait s'y prendre, hein. Mais pourtant, il semble bien qu'il avait la ferme assurance que Dieu allait agir. Et puis, après tout, s'il y avait de quoi douter, il y avait aussi de quoi avoir une ferme assurance que Dieu allait agir. Est-ce que c'était pas Dieu lui-même qui était venu le chercher en Mésopotamie pour lui dire de partir? Est-ce que c'était pas Dieu lui-même qui lui avait fait cette promesse d'une descendance nombreuse? Est-ce que c'est pas Dieu lui-même qui lui avait dit « Mais non, c'est pas par Ismaël que cette promesse sera accomplie ». Est-ce que c'est pas Dieu lui-même qui avait accompli ce miracle de la naissance d'Isaac? Est-ce que Dieu allait tout mettre par terre? Et si oui, comment serait-il fidèle à sa promesse? Devant autant de manifestations évidentes de la fidélité de Dieu, Abraham s'attend à ce que Dieu agisse. Ce serait bien si on pouvait faire pareil dans nos vies, hein. En ayant vu tellement de choses Dieu faire, que nous puissions nous aussi nous dire « Dieu va agir ». Je ne sais pas comment, mais Dieu va agir parce qu'il est là. Mais on sait, hein, et le doute n'est pas forcément un péché. On sait que c'est difficile dans beaucoup de circonstances. Alors Abraham fixe, lui, ses yeux sur ce que Dieu a accompli. Pour Abraham, il ne fait aucun doute, comme le dit l'Épître aux Hébreux. En Dieu est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et c'est ainsi que Abraham se met à gravir la montagne avec son fils, sur lequel il a chargé le bois de l'Holocauste, vous vous rappelez. Et il s'est pas dit « je peux le faire ». Parce qu'il pouvait faire quoi? Non, il a gravi la montagne en disant « Dieu fera ». Je ne sais pas comment, mais il fera. Et jusqu'au bout, même quand Isaac était pieds et mains liés sur l'autel, le bois en dessous, et qu'il était sur le point de devoir l'égorger, hein, pour ne pas qu'il meure par le feu, que ce soit moins terrible, Abraham s'attendait à Dieu. Ça transpire tellement du texte qu'écoutez ce que dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve, et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses, et à qui il avait été dit « En Isaac sera nommé pour toi une postérité ». Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Il était prêt à le tuer, d'après l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Hein. Il pensait que Dieu était puissant, même pour ramener son fils de la mort, s'il l'avait tué. Mais Dieu n'aime pas le sacrifice d'enfants. Donc Dieu ne va pas ressusciter Isaac, il va empêcher Abraham de tuer son fils. C'est ce moment fatidique, hein, où un ange appelle Abraham, « Abraham, Abraham, ne fais pas ça. Ne porte pas la main sur le garçon. » Et c'est alors qu'un sacrifice, comme Abraham l'avait dit, est bel et bien donné sur cette montagne à la place d'Isaac. Alors, que retenir de tout cela? Parce que c'est ça qui nous intéresse finalement, hein. Vous vous rappelez ma question de tout à l'heure? L'accomplissement de nos rêves? La réponse à une prière dans laquelle nous persévérons depuis des années? Ah, si Dieu me donnait ça, hein, ce serait quand même plus simple. C'est pas vraiment l'expérience d'Abraham, hein. Au contraire, c'est au moment où Dieu lui a donné la chose la plus extraordinaire qu'il a été mis à l'épreuve de la manière la plus forte dans sa foi. Le don de Dieu le confrontera, en fait, à la décision la plus importante qu'il aura à prendre dans sa vie, écouter ce que Dieu lui avait dit de faire et lui faire confiance. C'est l'exhortation de ce matin, hein. Même quand il nous semble que nous passons par une grande victoire, ne nous relâchons pas. Mais quand nous nous disions que ce serait mieux de passer par une grande victoire, soyons réalistes, ça ne nous fera pas sortir du combat de la foi. Écartons le mensonge qui nous dit que on aurait vraiment besoin de ça pour pouvoir avancer dans notre marche avec Dieu. Je vous rappelle, hein, Moi aussi, j'ai besoin d'apprendre dans ce domaine. Et c'est ce que Abraham, lui aussi, après pourtant 100 ans de marche avec Dieu, a dû apprendre. Ce que Dieu donne, il peut aussi l'enlever. Une fois qu'Abraham a eu ce qu'il attendait de Dieu, il a eu aussi à devoir apprendre que peut-être ça lui serait retiré. Et c'est notre cas, hein, dans tout ce que Dieu peut nous donner ce matin, dans tout ce qu'on peut aimer sur cette terre. Aimer, c'est douloureux, parce que quand ça n'est plus là, et là encore, des gens dans cette église passent par des épreuves beaucoup plus grandes que moi et peuvent mieux en témoigner que moi, mais on comprend le coût de l'amour. La seconde leçon que nous pouvons tirer de ce texte concerne aimer Dieu. Et c'est la conclusion du récit, hein. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Alors, craindre Dieu, ça ne veut pas dire avoir peur de Dieu. À la lumière de l'ensemble de la Bible, on comprend que craindre Dieu, c'est un engagement total envers Dieu. En fait, on pourrait traduire cette phrase de Dieu en disant « Maintenant, je sais que tu m'aimes plus que tout au monde. » Ce qui ne signifie pas, je le rappelle, que Dieu avait besoin de le savoir, il le savait déjà. Mais en fait, rien n'est aussi important pour Dieu que de nous amener à reconnaître si nous aimons Dieu pour lui-même ou pour ce qu'il nous a donné. Est-ce que nous plaçons quelque chose au-dessus de Dieu dans notre vie? Quelque chose qu'il nous aurait donné? Et c'est là où c'est subtil, parce que c'est tout de même un don de Dieu. Le problème pour Abraham, si Dieu n'était pas intervenu, c'est qu'il aurait très certainement fini, si ça n'était déjà fait, de mettre Isaac au-dessus de Dieu dans sa vie. Vous imaginez un enfant attendu pendant 100 ans? Alors cette lucarne sur les décisions de Dieu nous aide à comprendre pourquoi on ne peut pas toujours comprendre les décisions de Dieu. Dieu connaît les méandres de nos cœurs et il veut détrôner ce qui pourrait prendre sa place dans nos vies. Alors peut-être que, comme Abraham, Dieu va nous demander aussi de sacrifier quelque chose qui est très important dans nos vies, notre carrière, nos ambitions. Peut-être que ça va être dans un autre domaine, mais soyons remplis d'assurance. Les chemins par lesquels Dieu nous fait passer sont les plus sûrs moyens pour que notre amour envers lui soit épuré. Pour que nous puissions nous écrier à la fin, « Oui, Seigneur, je t'aime malgré tout. » J'avais dit, hein, ça allait être dur ce matin. La troisième leçon, c'est que, et là c'est plutôt une bonne nouvelle, mettre Dieu à la bonne place dans notre vie, en fait, est le plus sûr moyen pour aimer ce que Dieu nous a donné. Je m'explique. C'est très certainement qu'à l'issue du voyage qu'il a mené à la montagne, qu'Abraham a pu commencer à aimer sagement Isaac. Avant, très certainement, il était confronté à cette situation, hein, t'as fait écho tout à l'heure, Olivier, dans notre éducation des enfants, mais ça peut être aussi sur un conjoint. On a des attentes énormes sur eux. Alors, soit on voudrait qu'ils soient parfaits, et alors ça nous rend colériques, on supporte pas que le moindre défaut chez eux, ça nous rend autoritaires, et puis, bah, nous complexons celui qui est en face de nous, nous le frustrons. Soit ça fait l'effet tout inverse. On voudrait surtout qu'il ne manque de rien et le combler en tout. Alors on va répondre à toutes ses demandes, tous ses caprices. Et on le rend finalement imbu de lui-même ou égocentrique. Il n'y a que si Dieu est à la bonne place dans notre vie qu'on peut commencer à vraiment aimer les autres autour de nous comme il le faudrait. Pour aimer réellement ce dont Dieu nous donne de jouir sur cette terre, comme la famille, le travail, les biens matériels, il faut que notre amour pour Dieu les surpasse. Et nous en arrivons à la dernière leçon. Elle vient du caractère choquant de ce que Dieu a demandé à Abraham. Mon secret espoir, c'est que je ne vous ai pas du tout convaincu tout à l'heure avec mon histoire d'arrière-plan culturel. Que vous soyez toujours en disant « Mais quand même, c'est inhumain de demander ça à Abraham ». Alors si vous êtes toujours dans cet état d'esprit, je pense que vous comprenez alors très bien ce qu'a dû ressentir Dieu quand lui, il a donné son fils en sacrifice sur la croix. Parce que si Dieu a demandé au premier des croyants, au père des croyants, comme on aime à le dire, d'arrêter son bras pour ne pas tuer Isaac. Lui n'a pas arrêté son bras pour que son fils meure sur la croix, pour que nous ayons le pardon des péchés. Vous savez, cette fameuse culpabilité dont on parlait tout à l'heure. C'est pour cela que Dieu a sacrifié son fils, qu'il a payé lui-même le prix de sa justice, afin que nous n'ayons pas à le payer de notre propre vie. Qu'allons-nous faire d'une telle démonstration d'amour ?